VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 24 novembre 2016, en direct de Washington. Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Pour commencer, les titres.
Au Mali, le parti au pouvoir perd dans 10 des 19 communes urbaines du pays, au local du 20 novembre dernier.
Un opposant rwandais vivant en exil en France dit avoir été interdit d'entrer au Rwanda, où il comptait se présenter contre Kagame à la prochaine présidentielle.
En Centrafrique, la MINUSCA fait état de plusieurs morts dans des affrontements entre factions rivales de l'ex-Séléka.
Les forces armées nigérianes, accusées par Amnesty International d'avoir tué au moins 150 manifestants pro-indépendance du Biafra.
Ici aux États-Unis, les Américains célèbrent aujourd'hui Thanksgiving, la journée d'action de grâce.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au Mali, les résultats de la communale du 20 novembre donnent le parti au pouvoir perdant dans 10 des 19 communes urbaines du pays. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Avec les résultats des communales du dimanche 20 novembre, on constate que le Rassemblement pour le Mali, parti au pouvoir, a perdu dans plusieurs localités. À Bamako, le RPM a perdu dans son fief de la capitale, en commune 4 du district de Bamako, au détriment du parti Yélément. Les autres grosses pertes du RPM ont été enregistrées au niveau des communes urbaines, au nombre de 19. 10 seront gérées par le parti IRD de l'opposant Soumaïla Cissé, dont le parti a gagné dans plusieurs localités du pays. Le RPM a perdu à Mopti, Kati, Kita, Bougouni, Kouchala, San et surtout à Sikasso, l'un des plus grands bastions électoraux du pays. Mieux, la plupart des responsables du parti au pouvoir, qu'ils soient ministres, présidents de l'Assemblée nationale ou des directeurs nationaux, ont tous perdu presque dans leurs localités respectives. Selon bon nombre d'observateurs, le scrutin du dimanche 20 novembre ressemble à une sanction pour le régime en place, car c'est le parti IRD de l'opposant Soumaïla Cissé qui se positionne très bien pour la gestion des communes. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Un opposant rwandais exilé en France depuis 2005 a assuré hier avoir été interdit d'entrer au Rwanda alors qu'il souhaitait se présenter à la prochaine présidentielle face au président Paul Kagame. Le point avec Eric Manirakiza.
Thomas Nahimana était attendu à Kigali après une escale au Kenya avec trois membres de son parti, Ichema. Il voulait se rendre à Kigali pour se faire enregistrer afin de se présenter à la présidentielle de 2017. Selon l'opposant rwandais, peu avant d'embarquer, des agents de Kenya Airways lui ont fait savoir que le gouvernement rwandais leur refusait l'entrée sur le territoire rwandais. L'annonce du retour de l'ancien prêtre avait provoqué de vifs débats sur les réseaux sociaux. Il est accusé d'avoir tenu sur son site internet des propos niant le génocide des Tutsis en 1994. La conférence des évêques catholiques du Rwanda, qui vient de présenter ses excuses pour le génocide, s'est démarquée des propos de Nahimana. Même si la Constitution consacre le multipartisme, il n'existe presque pas d'opposition au Rwanda. Une réforme adoptée en décembre 2016 permet au président Paul Kagame de se représenter pour un nouveau mandat en 2017 et de potentiellement diriger le pays jusqu'en 2034.
En République centrafricaine, des affrontements entre factions rivales de l'ex-Séléka ont fait plusieurs morts, selon la mission des Nations Unies, MINUSCA. Des détails avec Eddie Isango.
D'après Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA, il y a eu au moins 16 morts et des milliers de déplacés et ces bilans pourraient s'alourdir. La MINUSCA a annoncé des renforts pour protéger quelques 5000 civils réfugiés près de sa base à Bria. Les combats ont éclaté entre les Fronts populaires pour la résistance de la Centrafrique, les FPRC, de Nouridin Adam et l'Union pour la paix en Centrafrique, l'UPC, d'Ali Daras. Les deux factions de l'ex-Séléka s'accusent mutuellement. Lambert Lissane, proche de Nouridin Adam, affirme que les FPRC et Ali Daras, chef de l'UPC, ne seraient pas partants. Les gouvernements de Bangui tentent de rallier 14 groupes armés à un accord de désarmement pour consolider une paix fragile dans un pays ravagé par la guerre civile.
Amnesty International accuse les forces armées nigérianes d'avoir tué au moins 150 manifestants en faveur de l'indépendance du Biafra dans le sud-est du Nigeria. C'est ce que dit l'ONG de défense des droits de l'homme dans un rapport publié aujourd'hui. Mais pour un porte-parole de l'armée, les accusations d'Amnesty font partie d'une série d'allégations destinées à entacher la réputation des forces armées. La police nigériane, quant à elle, a démenti avoir attaqué des manifestants. Il faut dire que les revendications indépendantistes restent importantes au Biafra depuis la guerre civile de 1967-1970, déclenchée par la rébellion de la région et qui s'est finie par sa capitulation. Environ 1 million de personnes y ont perdu la vie.
Au Soudan, les autorités ont interpellé hier 4 dirigeants de l'opposition sur fond de contestation contre des mesures gouvernementales d'austérité, la hausse des prix de l'électricité et du carburant et des restrictions à l'importation. Parmi eux figure Sadiq Youssef, un des chefs des forces du Consensus national, une coalition opposée au président Omar Hassan al-Béchir. Plusieurs manifestations de faible ampleur mais suffisamment rares pour être notées ont eu lieu à Khartoum, la capitale, au cours de la semaine écoulée. L'économie soudanaise stagne depuis l'indépendance du Soudan du Sud en 2011, qui l'a privée des 3/4 de ses recettes pétrolières.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a insufflé une dose de diversité dans son équipe en cours de formation en nommant hier au poste d'ambassadrice ou représentante permanente des États-Unis à l'ONU, Nikki Haley, une jeune gouverneure d'origine indienne, et une autre femme, Betsy DeVos, à l'éducation. Monsieur Trump pourrait aussi annoncer la nomination de son ancien rival de la primaire républicaine Ben Carson, qui est noir, au poste de ministre du Logement. Le point avec Jean-Roger Bion.
En nommant Nikki Haley, 44 ans, gouverneure républicaine de Caroline du Sud, M. Trump semble vouloir élargir sa base. Mme Haley l'avait critiqué avec virulence lors des primaires et pris position pour l'un de ses rivaux, Marco Rubio. Aux États-Unis, l'ambassadeur à l'ONU, poste occupé depuis 2013 par Samantha Power, est membre de l'administration et donc l'un des principaux collaborateurs du président. Mme Haley, dont la nomination sera approuvée par le Sénat, sera chargée à l'ONU de suivre notamment les crises en Syrie et en Ukraine, des dossiers sur lesquels Donald Trump a affirmé vouloir davantage de coopération avec la Russie. Donald Trump a aussi nommé la femme d'affaires milliardaire et philanthrope Betsy DeVos, 58 ans, comme ministre de l'Éducation. La nomination de Ben Carson au logement devrait être annoncée prochainement, a lui-même indiqué le neurochirurgien à la retraite sur sa page Facebook. Donald Trump, en ce moment en Floride pour la fête de la Thanksgiving, va profiter de ce long week-end pour peaufiner la constitution de son équipe et pourvoir 3 postes clés, le chef de la diplomatie, le secrétaire à la Défense et le secrétaire au Trésor. Selon les médias américains, Mitt Romney, ancien candidat à la présidentielle en 2012 et féroce contempteur de Donald Trump, reste en course pour se voir confier les affaires étrangères.
Et puis Hillary Clinton a remporté 2 millions de voix de plus que son rival Donald Trump à la présidentielle américaine du 8 novembre, qui a cependant été remportée par le républicain en nombre de grands électeurs. Cette avance de 1,5 point de pourcentage de la candidate démocrate, selon les experts du Cook Political Report, ne change rien au résultat de l'élection. Scrutin indirect à un tour.
En France, les 2 finalistes de la primaire de la droite, François Fillon et Alain Juppé, se retrouvent pour un duel télévisé. Mais le climat s'est brutalement envenimé avant l'échéance du second tour dimanche. À coup d'interventions médiatiques quotidiennes et de meetings, les 2 adversaires ont perdu leur temps policé. François Fillon l'emporterait avec 65% des voix au second tour de la primaire contre 35% pour Alain Juppé, selon un sondage IFOP Fiducial publié mercredi.
En Syrie, une centaine de familles ont tenté de fuir la partie assiégée d'Alep au moment où le régime de Bachar al-Assad progressait encore dans ce secteur rebelle. Damas veut à tout prix reconquérir, avec l'aide de ses alliés russes et iraniens, Alep Est, où sont assiégés 250 000 civils. Plus d'une semaine après le lancement de cette vaste offensive, le chef de la diplomatie française, Jean-Marc Ayrault, a indiqué qu'il était urgent de réagir et la France a annoncé qu'elle allait réunir début décembre les pays soutenant l'opposition syrienne.
En Colombie, le président Juan Manuel Santos et le chef de la guérilla des FARC, Timochenko, signent aujourd'hui le nouvel accord de paix qui doit mettre fin à plus de 50 ans de conflit armé. Le texte de cet accord a été renégocié pour inclure des propositions de l'opposition, et ce suite au rejet d'une première version par référendum.
Au Japon, un nouveau forcéisme s'est produit ce matin dans le nord-est du pays, au large de Fukushima, mais sans provoquer de risque de tsunami ni de dégâts dans l'immédiat. 48 heures plus tôt, un violent tremblement de terre avait déclenché un tsunami sur la côte nord-est, sans cependant dégénérer en catastrophe. Seulement quelques blessés avaient été relevés du fait des secousses. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guiriec.
Au Nigeria, la population reste confiante malgré la récession. 86% des Nigérians pensent que la situation économique va s'améliorer dans les 12 prochains mois, d'après l'Institut international de statistiques. Les récessions ont normalement tendance à déprimer, mais pas au Nigeria. En janvier, Gallup International disait que le Nigeria est le pays le plus optimiste au monde lorsqu'il s'agit de prospérité économique. Shell souhaite délocaliser son procès à Abuja. La compagnie pétrolière anglo-hollandaise, accusée de pollution au Nigeria, est actuellement poursuivie à Londres. Les plaignants estiment que Shell tente ainsi de bénéficier du système judiciaire nigérian corrompu selon eux. Et puis en Tunisie, le projet de budget 2017 fait grincer des dents. Parmi les mesures de rigueur figure un gel des salaires d'un an dans la fonction publique. Le texte a d'ores et déjà été adopté par le gouvernement. Il faut dire que 6 ans après sa révolution, la Tunisie n'est toujours pas parvenue à faire redémarrer son économie. Le déficit public atteint 6,5% du PIB.
À présent, notre page sport avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa et Happy Thanksgiving.
Cannes féminine 2016, le Cameroun espère confirmer son bon début de compétition.
Oui, le match nul, un but partout entre les favorites anglophones de ce groupe B, le Nigeria face au Ghana et surtout le Mali qui s'est repris face au Kenya. Une victoire des Maliennes, 3-1. Allez Idrissa, je vous laisse donner les résultats de la 5e journée de la Ligue des champions en Europe.
Groupe A, Arsenal et le PSG, 2-2. Ludogorets, Razgrad, Bâle, 0-0. Groupe B, Besiktas, Benfica, 3-0. Naples, Dynamo Kiev, 0-0. Groupe C, Celtic Barcelone, 0-2. Manchester City, Mönchengladbach, 1-1. Groupe D, Rostov, 3, Bayern Munich, 2. Atlético Madrid, PSV Eindhoven 2-0.
Enfin, Idrissa, avec vous, on parle de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Memphis, Philadelphia 104-99, San Antonio, Charlotte 119-114, Phoenix, Orlando 92-87, Portland, Cleveland 125-137, Atlanta, Indiana 96-85, Boston, Brooklyn Nets 111-92, Miami, Detroit 84-107, Toronto, Houston 115-102, et les Clippers, Dallas 124-104, et enfin Denver, Utah 83-108.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au programme, Island Music, de la bonne musique des Antilles et Caraïbes. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h, temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Seydoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Selon une enquête d'Amnesty International, les forces de sécurité nigérianes ont fait réprimer dans le sang des manifestations pacifiques pro-Biafra dans le sud-est du pays, ce qui a entraîné la mort d'au moins 150 personnes entre août 2015 et août 2016. Pour davantage de détails, Claire Morin-Gibourg a joint la directrice régionale d'Amnesty pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Samira Daoud.
Nous avons mené près de 200 entretiens. Nous avons aussi analysé 87 vidéos, plus d'une centaine de photos, de nombreux témoignages, directs ou indirects, liés aux manifestations et aux rassemblements qui ont été organisés durant cette période et au cours desquels l'armée a tiré à balles réelles contre les manifestants. Et donc voilà, ce rapport documente des cas graves d'exécution extrajudiciaire et d'une répression meurtrière et aveugle à l'encontre de personnes qui manifestaient soit à l'occasion de commémorations en hommage aux victimes du Biafra, soit pour manifester leur souhait de voir le Biafra indépendant.
Ce recours à la force de l'armée nigériane semble avoir été délibéré. Et que font les autorités ?
Nous pensons que le fait d'abord d'avoir envoyé l'armée pour assurer le maintien de l'ordre est en grande partie à l'origine de ces crimes et de ces bains de sang. Ce n'est pas le rôle de l'armée que de gérer les foules et de faire du travail de maintien de l'ordre, c'est le travail de la police. L'armée n'est pas formée pour ça. Et donc, malheureusement, ce que nous avons pu observer, c'est que l'armée sur le terrain s'est comportée comme elle se comporte en zone de conflit, c'est-à-dire que nous avons pu assister à de véritables opérations militaires qui avaient pour objectif, malheureusement, de tuer et de blesser. Et l'une des choses que nous soulignons dans notre rapport, c'est justement que, malheureusement, les autorités n'ont jusqu'à présent encore mené aucune action visant à mettre fin d'abord à ces exactions et à enquêter et demander aux personnes responsables de ces faits de rendre des comptes. Ce n'est malheureusement pas quelque chose d'inhabituel. Amnesty a travaillé longtemps sur le comportement de l'armée dans les opérations de lutte contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria. Et malheureusement, nous avons documenté exactement les mêmes comportements, c'est-à-dire les éléments de l'armée qui procèdent à des arrestations arbitraires, à des exécutions extrajudiciaires et à des exécutions de civils non armés.
Finalement, vous avez découvert qu'il y avait quasiment une véritable politique qui se traduit par des centaines d'arrestations arbitraires, de mauvais traitements, que c'est finalement très organisé.
Tout à fait. C'est clairement une opération visant à semer la terreur et à réprimer de manière meurtrière. Il ne s'agit pas de cas isolés, il ne s'agit pas de bavures, il s'agit véritablement d'ordres qui auraient été donnés. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est manifesté sur le terrain, où les militaires sont venus pour clairement finir avec les manifestants.
Samira Daoud, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. En Afrique, moins d'un tiers de la population a accès à Internet. On constate cependant un véritable boom des réseaux sociaux, en particulier auprès de la jeunesse, qui utilise Facebook et WhatsApp comme mode d'expression privilégié. Dilidico a joint Pauline Band, représentante de la Fondation Hirondelle au Niger.
Je pense qu'il y a différentes raisons. L'accès à l'Internet, déjà, dans un premier temps, il est souvent limité aux villes, aux centres urbains, alors que la majorité de la population ne se trouve justement pas dans ce centre urbain. Ensuite, je pense qu'il y a la question des infrastructures. Dans les régions en dehors des capitales, dans les régions dans lesquelles on trouve l'infrastructure, elle n'est souvent pas de très bonne qualité et elle reste quand même inaccessible en termes de coût. Je pense qu'il y a une question de localisation. Où sont les infrastructures Internet? Elles sont dans les grandes villes. Il y a une question de coût d'accès, il y a une question de qualité aussi de ces connexions-là qui font qu'il y a très peu de gens qui ont accès.
On constate que malgré le fait qu'il n'y ait qu'un tiers de la population africaine qui ait accès à Internet, il y a quand même un véritable boom en fait des réseaux sociaux en Afrique. Comment est-ce que vous expliquez ce paradoxe ?
Les réseaux sociaux ont fait quelque chose qui est peut-être de briser le gap ou les barrières qui existaient entre le monde entre guillemets éduqué qui a été à l'école et le monde entre guillemets moins éduqué. Quand on prend l'Internet classique, le mode de connexion, c'était souvent, bon, il faut un ordinateur, il faut savoir se servir d'un ordinateur pour accéder à l'Internet, il faut prendre un abonnement, etc. Aujourd'hui, vous avez trois choses. Il y a les smartphones qui sont de plus en plus répandus. Vous rendez sur les marchés, chez les artisans, vous allez supprimer le nombre de personnes qui se baladent dans la rue avec des téléphones nouvelle génération qui peuvent leur permettre d'aller sur Internet. Vous avez aussi, je pense, qu'il y a une sorte d'offensive des opérateurs de téléphonie mobile qui ont proposé des paquets à des prix très très bas pour permettre aux gens d'aller justement sur des réseaux sociaux. Il existe des offres spéciales Facebook ou spéciales WhatsApp avec un très faible prix hein, pour 100 francs, vous avez un accès. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus facile aux gens d'accéder à l'Internet à partir de ces terminaux téléphones mobiles.
De plus en plus, la jeunesse africaine utilise les réseaux sociaux comme un moyen d'expression et de mobilisation. Comment est-ce que vous expliquez cette nouvelle tendance ?
Il y a eu la mode des réseaux sociaux qui ont été pour quelque chose dans les révolutions, dans le printemps arabe, on a dit, bon, après, il y a des études qui ont montré que l'impact devait être relativisé. Mais je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont cette facilité-là de créer des groupes de discussion, par exemple, d'échanger sur des forums. C'est vraiment quelque chose qui est immédiatement accessible. Si vous voulez, par exemple, être entendu sur une radio, c'est un peu plus compliqué.
Pauline Bend, représentante de la Fondation Hirondelle au Niger.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, les Américains célèbrent aujourd'hui le Thanksgiving, la journée d'action de grâce, un jour férié et chômé, l'occasion de se retrouver en famille et entre amis pour partager la dinde traditionnelle. Reportage d'Arzuma Compaoré.
Plus qu'une fête nationale, le jour de l'action de grâce, plus communément connu sous le nom de Thanksgiving, est un jour très spécial pour les Américains. À cette occasion, en groupe ou en famille, on se rassemble pour partager un repas de gratitude. Françoise Ntolo, originaire du Cameroun, fait partie des volontaires de cette année au repas offert par le Safeway Feast of Sharing.
Pour moi, Thanksgiving, c'est un peu comme les Américains. C'est une occasion pour moi de dire merci Seigneur, merci, remercier Dieu pour tout ce que j'ai dans la vie. En tant qu'Africaine, c'est aussi une opportunité pour moi de dire merci pour ma famille, merci pour tout le monde. Ma famille au Cameroun ne connaissent pas Thanksgiving, mais je les appelle quand même. Certains Camerounais, quand je vais, ils font du poisson braisé, ils font la Thanksgiving à l'africaine. Je sais que, je sais pas, il y a eu certains immigrants qui sont venus aux États-Unis. C'est eux qui ont apporté la fête et en tant qu'immigrante, moi aussi, je célèbre.
Une dinde farcie accompagnée d'une purée de pommes de terre, de patates douces, d'une gelée de canneberge et une tarte à la citrouille, ce sont là les éléments de base d'un repas de Thanksgiving. Un tel repas coûterait à peu près entre 50 et 60 dollars. Et quand on est toute une famille, cela peut vite devenir coûteux. Pour ne laisser personne en marge, beaucoup d'organisations caritatives offrent un plat chaud à tous ceux qui se présentent. Pour l'armée de volontaires, chaque plat servi est un rappel qu'ils font la différence dans la vie d'une personne.
Docteur Hélène Collen, psychologue dans la ville de Washington, DC.
Beaucoup d'Américains se portent volontaires pendant Thanksgiving. Il y a des gens qui vont donner un coup de main dans les cuisines ou dans les centres d'accueil des sans-abri. D'autres donnent de la nourriture. C'est surtout prendre le temps de penser aux autres, à des personnes qui sont dans le besoin.
Rappelons que si la Thanksgiving est aujourd'hui un moment de gratitude pour tous, elle rappelle aussi le rôle joué par les Amérindiens lors du tout premier Thanksgiving américain organisé par les premiers pèlerins en remerciement aux Indiens qui leur ont sauvé la vie. Arzuma Compaoré, VOA Afrique.
Merci. Merci Arzuma. Autre reportage sur le Thanksgiving. Des volontaires et membres de certaines communautés vont se mettre avec des réfugiés arrivés récemment dans le pays pour un dîner spécial. Elisabeth Charneff était parmi eux et son reportage est rendu ici par Lionel Gahima.
C'est un Thanksgiving assez particulier qui réunit à Arlington des habitants et des réfugiés arrivés récemment dans ce quartier de Virginie, non loin de la capitale américaine. Partager un repas pour une fête typiquement américaine. Kidis Tesfaye est arrivé aux États-Unis grâce à une ONG, le Conseil éthiopien au développement, qui aide les réfugiés à trouver du travail, des écoles et des endroits pour vivre.
Je suis vraiment contente de travailler avec les réfugiés.
Ce repas de Thanksgiving vise à souhaiter la bienvenue aux réfugiés qui viennent d'arriver aux États-Unis.
Le but, c'est de leur apporter l'amour et montrer que les États-Unis, c'est l'opportunité. L'Amérique est pour tout le monde, c'est ça le programme du dîner.
Être autour d'une table pour ce dîner de Thanksgiving est en quelque sorte un buffet multiculturel. Sadiq Ali Haidari est venu du Pakistan avec sa fille âgée de 19 ans. Je crois que c'est mon cinquième ou sixième Thanksgiving. Rayonnant de sourire, Chandra est originaire du Sri Lanka.
C'est très sympa. Je vois beaucoup de gens venus de pays différents et une nourriture différente.
Il n'y a pas de débat politique à ce dîner. Seulement les gens à table pour apprécier la bonne compagnie de la nourriture. Sarah Zulo est membre de l'ONG Conseil éthiopien au développement.
Lorsque des personnes partagent un plat, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Soudain, elles se rendent compte qu'elles ont beaucoup plus en commun que de différences.
Embrasser ces différences est cela qui a permis à l'ONG de tenir plus de 30 ans. Le docteur Teshai Tefera, président et fondateur de l'ONG Conseil éthiopien au développement. Notre rôle dans le processus d'installation des réfugiés est de les intégrer à la communauté. Il n'y a pas meilleur moyen que Thanksgiving comme partie de ce processus. Ensemble, ces familles qui rêvent d'un avenir meilleur aux États-Unis rompent le même pain, suivant une tradition bien américaine.
Dans Washington Forum ce jeudi, Tatiana Mosso avec vous. Retour sur la COP22 à Marrakech après deux semaines de discussions. Un sommet marqué par l'incertitude suite à l'élection aux États-Unis du climato-sceptique Donald Trump. Quelle avancée dans l'application de l'accord de Paris? Quel bilan pour le continent africain, notamment les partis des Verts? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, avec nos invités.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h temps universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de VOA Afrique. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-85-40. Je répète, 225-58-92-85-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show, chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa! Tonight.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seydoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.